Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 31 juillet. Présentation Bertrand Tungandamé. Au sommaire de cette édition, comme tous les samedis, nous avons notre rubrique rétro. Nous reviendrons cette semaine sur l'assassinat le 31 juillet 1914 de Jean Jaurès. Dans le programme, nous allons aussi voir la vie de Jessica Fox. Donc nous allons parler de Jessica Fox, l'athlète olympique, une championne olympique franco-australienne. Avant de développer tout cela, l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud signale 210 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement. Et le Queensland décrète un confinement strict de 3 jours après la détection de 6 nouveaux cas de COVID-19. Et décès hier de Jacob Desvarieux du groupe CASAV à l'âge de 66 ans. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 210 nouveaux cas de COVID-19. Les autorités signalent qu'au moins 32 de ces personnes circulaient dans la communauté pendant tout ou partie de leur période infectieuse. Le Grand Sydney et les régions environnantes sont verrouillées au moins jusqu'au 28 août prochain, alors que les autorités sanitaires se battent pour contenir l'épidémie de la variante Delta très virulente. Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, a annoncé les nouveaux chiffres ce matin et précise que ces cas ont été détectés après 105 000 tests COVID effectués hier.
Of those tests, we had 210 cases locally acquired. There were 2 overseas acquired. Again, unfortunately, of those 210 cases, by far the majority were in southwest Sydney and western Sydney. We had 81 cases acquired in southwestern Sydney and 72 cases acquired in western Sydney.
Quelques 138 des cas enregistrés dans les dernières 24 heures en Nouvelle-Galles du Sud sont des personnes de moins de 40 ans. Quelques 58 patients COVID-19 sont traités dans des lits de soins intensifs, dont 40% ont besoin d'une ventilation. Monsieur Hazard a exhorté les jeunes à rester conscients du risque d'hospitalisation. Et pendant ce temps, les projets de construction de Sydney sont désormais autorisés à reprendre, ce à condition que des plans de sécurité COVID-19 soient en vigueur. Et le Premier ministre Scott Morrison estime que des confinements de courte durée seront encore nécessaires pour contenir la flambée épidémique liée aux variants Delta de COVID-19. Les autorités australiennes entendent éviter des confinements à l'échelle des villes entières en faveur des restrictions ciblées. Ces mesures s'appliqueront une fois que 80% de la population aura été complètement vaccinée contre le COVID-19. Monsieur Scott Morrison prévient que toute nouvelle variante pourrait modifier les plans du pays. Il a ajouté aussi que les restrictions seront assouplies pour les personnes vaccinées.
And we've agreed that no state under the current suppression phase and beyond should be required to lift restrictions and or increase restrictions, I should say, beyond where they currently are right now.
Ces seuils ont été dévoilés après la réunion du cabinet national hier qui réunissait les dirigeants de tous les États et territoires australiens.
I don't think they'd be enforcing or putting people out there or police or army out there if people weren't following the rules.
Certains résidents de Sydney soutiennent le confinement prolongé au moment où la ville se prépare au déploiement de l'armée pour mener des opérations conjointes avec la police pour faire respecter les restrictions sanitaires. 300 membres des forces de défense australiennes sont déployés dans les zones les plus touchées par le COVID-19 pour réprimer les habitants qui violent les restrictions sanitaires. Monica Tanius, une résidente de Bondi, estime que des ressources supplémentaires sont probablement nécessaires pour mieux contrôler la propagation du COVID-19 dans la communauté de la Nouvelle-Galles du Sud.
I don't think they'd be enforcing or putting people out there or police or army out there if people weren't following the rules. So I think it's a good thing, really, just so we can get on top of this thing.
Selon le gouvernement fédéral, des militaires participent à une formation au cours de ce week-end et commenceront officiellement leurs fonctions dans les rues de Sydney lundi 2 août. Et en vertu d'un avis d'interdiction émis par la police de Nouvelle-Galles du Sud, il est interdit aux services de taxi, de covoiturage et de passagers de transporter des personnes vers le CBD de Sydney entre 9h ce matin et 15h cet après-midi. L'avis a été délivré à 7 prestataires de services de transport en réponse à une manifestation illégale planifiée qui, selon les autorités, risque de compromettre gravement la sécurité du public. Selon les autorités, plus de 1000 agents de police seront déployés pour mission d'empêcher les manifestations illégales. Les limites de la zone d'exclusion seront délimitées par les axes West Link Road à l'ouest jusqu'à l'axe The Crescent, puis à l'est à Lilyfield. L'axe nord-sud commence au croisement de South Darling Street et Todman Avenue à Zetland et se prolonge jusqu'à la Bradfield Highway à Milsons Point, plus au nord, avant de descendre vers le croisement entre New South Head Road et Ocean Avenue à Edgecliff. Les entreprises qui ne se conforment pas à l'avis d'interdiction s'exposent à une amende maximale de $500,000, tandis que les particuliers s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à $100,000. Et le Queensland a enregistré 6 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement, tous liés à un élève d'un lycée d'Indiropilly. À la suite des infections, les autorités du Queensland ont décrété un confinement strict de 3 jours sur une grande partie du sud-est du Queensland. À partir des 16h ce samedi après-midi, 11 localités seront soumises aux restrictions les plus sévères que le Queensland n'ait jamais connues. Les 6 nouveaux cas sont constitués de 4 membres de la famille de l'étudiante d'Indiropilly âgée de 17 ans, d'une étudiante en médecine à l'Université du Queensland qui donne des cours particuliers à l'adolescente et des membres du personnel de la Ironside State School. Ces restrictions ont été annoncées tôt ce matin par Stephen Miles, vice-premier du Queensland.
We must go hard and go early. And so from 4 p.m. today, the 11 LGAs that currently have mask wearing requirements will go into lockdown. This will be the strictest lockdown that we have had.
Les habitants des zones concernées ne peuvent quitter leur domicile que pour 4 raisons: travail essentiel, études ou garde d'enfants, faire de l'exercice, acheter de la nourriture et des fournitures, recevoir des soins de santé, y compris être testé pour le COVID-19 ou être vacciné contre le virus. Les autorités du Victoria sont en train d'enquêter sur la source d'un cas positif de COVID-19 contracté sur un site de test de Melbourne et lié à la variante Delta. Le Victoria a enregistré hier 3 cas de coronavirus acquis localement, ce quelques jours seulement après la fin d'une courte période de confinement. Cependant, les autorités du Victoria restent en état d'alerte élevée, craignant davantage d'infections. Un complexe d'appartements à Hawthorne a été désigné comme site d'exposition, mais aucun cas positif n'est présent dans le bâtiment. Pendant ce temps, des tests des résidents d'un complexe d'appartements de Docklands se poursuivent alors que les habitants de ce complexe sont soumis à une période d'isolement de 14 jours. L'Australian Medical Association a affirmé sa confiance dans le vaccin AstraZeneca, ce pour augmenter les taux de vaccination. Le président de l'AMA, le docteur Omar Khorshid, a déclaré qu'AstraZeneca devrait être pris en compte lorsque les patients évaluent les avantages par rapport aux risques, en particulier compte tenu de la forte contagiosité de la variante Delta.
I know what the aim is, and the aim is for everyone to be vaccinated. That is the only way we can protect each other from this terrible disease, and we know that there are more challenges coming in the future.
L'AMA a également appelé à des confinements plus stricts pour lutter contre la flambée épidémique affectant le Grand Sydney. Et plus de 38 000 Australiens bloqués à l'étranger se sont inscrits pour revenir au pays alors que la pandémie de coronavirus fait rage. Selon le ministère des Affaires étrangères, 4 569 personnes sont inscrites sur la liste, une liste qui compte 38 523 personnes désirant revenir en Australie et qui sont considérées comme vulnérables. Environ 6 000 personnes ont indiqué qu'elles ne souhaitent pas retourner en Australie avant les trois derniers mois de l'année. Ainsi, 32 000 personnes veulent revenir au pays au cours de ce trimestre. L'Inde reste le pays comptant le plus grand nombre de personnes enregistrées pour rentrer au pays, avec 10 268 personnes enregistrées, ce devant le Royaume-Uni avec 6 405 résidents ou ressortissants australiens bloqués à l'étranger. Le cofondateur du groupe Kassav, Jacob Desvarieux, est mort hier à l'hôpital des Abîmes à l'âge de 66 ans. Jacob Desvarieux avait été hospitalisé depuis plusieurs jours en Guadeloupe pour infection de COVID-19. Le chanteur, musicien, arrangeur et producteur était une personnalité marquante de la vie musicale des Antilles. C'est à Paris où il est né qu'il s'était avéré et qui s'était révélé en plein âge d'or du disco. Et c'est là aussi qu'il avait fait la rencontre de Pierre-Édouard Décimus, avec qui il a créé le groupe mythique Kassav en 1979. Et on reste en France, où on remarque une croissance économique forte qui se rapproche de son niveau d'avant la crise de COVID-19. En effet, le PIB a connu un bond exceptionnel au deuxième trimestre, soit une croissance de plus de 0,9%, une augmentation supérieure aux prévisions de l'INSEE, l'Institut national des statistiques. Cette forte croissance intervient malgré un mois d'avril marqué par le confinement. Comme le souligne Altin Lazage du service économique de RFI, cette forte performance de l'économie française a été propulsée notamment par la reprise de la consommation des ménages.
Les dépenses des ménages, moteur de l'économie française, ont joué un rôle important dans ce rebond de la croissance. Elles ont augmenté de 0,9% au deuxième trimestre, soit au même rythme que le PIB. La consommation a été particulièrement dynamique dans l'hébergement, la restauration et les transports, en raison notamment de la réouverture des bars et restaurants. L'investissement global a lui aussi accéléré sur la même période, surtout dans les entreprises, ce qui montre que l'économie française est sur la bonne voie pour atteindre une croissance de 6% cette année, une des plus élevées de la zone euro. Cela permettrait au PIB de retrouver son niveau d'avant-crise dès début 2022, comme l'espère le gouvernement. Une incertitude pèse pourtant sur ces prévisions. L'impact de la quatrième vague de l'épidémie que connaît la France du fait de la propagation du variant Delta.
Et au Pérou, le nouveau président Pedro Castillo a commencé à mettre en place son équipe gouvernementale. Au total, ce sont 16 ministres qui ont été nommés pour l'instant. Parmi eux, on note la nomination d'Hector Béard, un universitaire et ex-guerrillero au poste de ministre des Affaires étrangères, mais la nomination la plus remarquée est celle de Guido Bellido, un ingénieur sans expérience politique, au poste de Premier ministre. Portrait Marie Normand pour RFI.
Comme le président, Guido Bellido est d'origine paysanne. Comme lui, il ne sort pas sans son chapeau traditionnel. Et comme lui, il n'a aucune expérience politique. Il vient tout juste d'être élu au mois d'avril député du parti présidentiel Pérou Libre. La nomination de cet ingénieur originaire de la région de Cusco, dans le sud du pays, est très commentée ce vendredi par la presse péruvienne, car Guido Bellido est une personnalité clivante. El Comercio publie un ensemble de messages homophobes et misogynes qu'il a postés sur les réseaux sociaux ces dernières années. La Republica, qui avait pourtant soutenu la candidature Castillo à la présidentielle, regrette que son premier ministre ait été poursuivi pour apologie du terrorisme. En cause, des déclarations à la télévision qui semblaient prendre la défense du Sentier Lumineux, une ancienne guérilla maoïste qui a semé la terreur au Pérou pendant 20 ans. Cette nomination crispe encore davantage un pays divisé après une élection présidentielle qui s'est jouée à quelques dizaines de milliers de voix près. Certaines personnalités, à l'image du maire de Lima, appellent le président à corriger le tir avant que l'ensemble du cabinet demande la validation du Congrès dans quelques semaines.
On reste dans les Amériques, mais cette fois-ci un peu plus au nord, où l'actrice américaine Scarlett Johansson a porté plainte devant la Superior Court de Los Angeles contre Disney. Elle estime que la firme n'a pas respecté les modalités de son contrat. Comme le souligne Loïc Piella pour RFI, le contentieux concerne la sortie du film Black Widow simultanément sur les plateformes en ligne et au cinéma.
Le week-end de sa sortie aux États-Unis, Black Widow a récolté 80 millions de dollars au cinéma et 60 millions sur Disney+. Le film se loue pour 30 dollars sur la plateforme et contrairement aux salles, Disney n'a pas à partager les recettes avec les exploitants. Forcément, la stratégie ne plaît pas à ces mêmes exploitants, mais elle n'a pas non plus enchanté Scarlett Johansson, l'héroïne du film. Comme beaucoup d'autres vedettes à Hollywood, le contrat de l'actrice inclut un pourcentage sur les résultats au box-office. La pratique permet de réduire le budget des grosses productions, sauf qu'elle ne tient pas compte de la montée en puissance du streaming, un phénomène récent, accéléré par la pandémie. Dans le cas de Johansson, le manque à gagner s'élèverait à 50 millions de dollars, selon le Wall Street Journal. Warner Bros. A également opté pour des sorties parallèles en salle et sur sa plateforme HBO Max en 2021. Mais le studio a rapidement renégocié les contrats de ses principales stars et versé des dizaines de millions de dollars en compensation.
Et retour en Australie pour un coup d'œil météo à travers le pays. Perth à 16 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 19, Hobart 16, Canberra 16 degrés, Wollongong 23, Sydney 24, Newcastle 22, Brisbane 23, Cairns 28 et Darwin 32 degrés. Un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud signale 210 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement. Et le Queensland décrète un confinement strict de 3 jours après la détection des 6 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement. Et décès de Jacob Desvarieux du groupe Cassav à l'âge de 66 ans.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Ceci est un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est actuellement en état d'alerte maximale concernant le coronavirus. Si vous vivez dans le Grand Sydney ou dans les régions de la Central Coast, des Blue Mountains, de Shell Harbour et de Wollongong, vous devez rester chez vous, à moins que vous n'ayez une raison impérieuse de sortir. Il est impératif que vous ne receviez pas de visiteurs chez vous, même si ce sont des membres de votre famille. Les commerces non essentiels doivent rester fermés au public et n'opérer qu'en ligne ou via un système de click and collect s'ils le peuvent. Des restrictions supplémentaires s'appliquent à ceux qui vivent dans les zones de Fairfield, Canterbury-Bankstown, Liverpool, Cumberland, Blacktown, Parramatta, Campbelltown et George River. Si vous habitez dans l'un de ces quartiers, vous ne pouvez pas le quitter pour aller travailler, à moins d'y être expressément autorisé. Pour toutes les dernières informations, rendez-vous sur nsw.au.
Dans l'actualité sportive de ce samedi, on commence avec le début hier des épreuves phares des Jeux Olympiques de Tokyo, à savoir l'athlétisme. Eh bien, la journée d'hier a été marquée par la victoire surprise de l'Éthiopien Selemon Barega aux 10 000 mètres. Compte rendu de cette performance avec Christophe Doucet pour RFI.
Pendant plus de 24 tours de piste, on ne l'a pas vu aux avant-postes. Il attendait son moment bien au chaud par 30 degrés dans le groupe de tête. Et puis, Selemon Barega a placé son démarrage, couvrant les 250 derniers mètres à une allure infernale. Surpris, les favoris ougandais, le détenteur du record du monde, Joshua Cheptegei, et le meilleur performeur de l'année, Jacob Kiplimo, ont été incapables de le reprendre. Ils se contentent de l'argent et du bronze. L'Éthiopie renoue donc avec le titre olympique du 10 000 mètres. Quand Barega est né il y a 21 ans, Haile Gebrselassie avait déjà gagné à Atlanta en 96 et se dirigeait vers l'or des Jeux de Sydney. Le 10 000 était ensuite resté éthiopien, grâce à Kenenisa Bekele en 2004 et 2008, avant que le Britannique Mo Farah ne le confisque pour deux éditions des Jeux. Selemon Barega, qui courait sa première finale olympique, a réussi ses débuts pour faire aussi bien que ses glorieux aînés. Il devra récidiver dans 3 ans à Paris.
Côté athlétisme féminin, eh bien c'est l'Ivoirienne Marie-Josée Talou qui a frappé fort dans la série du 100 mètres. Compte rendu, Marie-Amélie Motte pour RFI.
Des séries historiques ce matin à Tokyo, les plus rapides de l'histoire des Jeux pour le 100 mètres féminin. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou a bouclé sa série en 10 secondes 78, cinquième meilleure performance mondiale de l'année et record d'Afrique égalé. Les deux Jamaïcaines, Shelley-Anne Fraser-Pryce et Elaine Thompson, ont aussi montré qu'elles étaient très en jambes. Ça promet pour les demi et la finale samedi. Et il y avait aussi du 800 mètres au programme ce matin avec Renelle Lamotte. La Française s'est rassurée avec un chrono en 2 minutes 1 seconde et 92 centièmes.
Ouais, là c'est cool. Oui, pardon, je suis mal poliée. On dit pas ouais, on dit oui. Je suis soulagée parce que c'était une pression vraiment énorme. J'avais tellement peur de sortir parce que je sais que cette année il y a des choses à faire sympas. Donc là je suis contente parce que malgré tout ce que l'encadrement, mon coach, ma psy, tout ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit mais ça va aller, ça va aller. Et finalement j'aurais dû les écouter parce que ça a été. Et j'avais tellement peur. Bah, je savais que si je sortais au premier tour, ça allait tuer mon moral pendant au moins 6 mois. Quoi. Donc là, je suis trop contente. L'aventure continue. C'est pas fini. Hein. Tout est possible. Demain, c'est la mort. Demain, c'est à fond.
Et toujours au JO, mais cette fois-ci au tennis, eh bien, il n'y aura pas de grand chelem doré en carrière pour Novak Djokovic. En tout cas, pas cette année. Bien, le Serbe qui a tout gagné dans sa carrière sauf la médaille d'or olympique est tombé de façon inattendue hier face à Alexandre Zverev en demi-finale. Alors qu'il menait 6-1, 3-2 avec un break d'avance, le numéro 1 mondial s'est complètement écroulé face au numéro 5 mondial. Zverev s'est déchaîné pour s'imposer finalement en 3-7, 1-6, 6-3, 6-1 et rejoindre le Russe Karen Khachanov en finale. Et toujours hier au JO de Tokyo, déception pour la France, eh bien, le double champion olympique en titre chez le plus de 100 kg au judo, Teddy Riner, ne réalisera pas la passe des 3. Le Français a été battu en quart de finale à Tokyo par le Russe Temerlan Bachaev. Une déception pour Riner, mais aussi pour toute la délégation française. Écoutons Stéphane Nomis, président de la Fédération française de judo, au micro de nos confrères de RFI.
Personne ne s'attendait à la défaite de Teddy Riner en quart de finale. Il perd, pas contre un inconnu, hein, puisqu'il perd contre le numéro 1 mondial et champion du monde en titre. Il fait un premier début de combat plutôt bien, il le gère correctement, il a une différence d'une pénalité, ça se gère bien, mais une toute petite erreur alors qu'il était prêt, quoi. C'est presque même un abus de confiance qui pourrait expliquer qu'il chute, quoi, mais parce qu'il ne se sentait pas du tout en danger sur l'attaque.
Moralement, comment il est là, vous l'avez vu ou...
Pas moralement, là, il a eu du mal à encaisser le premier coup. J'espère que dans les 2 heures qui vont suivre, il va réussir à se remobiliser correctement. Il y a une place de 3 à aller chercher et on espère qu'il va aller la chercher hein, quand même.
Après un combat de repêchage, Teddy Riner a décroché une médaille de bronze. Petite consolation donc. Et après le judo, la délégation française a dû essuyer 2 autres désillusions avec l'élimination de l'équipe masculine d'escrime en quart de finale contre le Japon. Les Français étaient pourtant détenteurs du titre olympique. Après leur victoire contre la France, les Japonais sont allés battre la Russie 45-36 pour remporter leur premier titre olympique de leur histoire en escrime. L'autre déception du jour pour la délégation française à Tokyo s'est matérialisée dans le BMX. En effet, avec 3 représentants à la finale de BMX, la France n'a décroché aucune médaille à l'arrivée. On signale que la veille avait eu lieu un accident grave, une chute massive impliquant la coureuse australienne Saya Sakakibara, largement favorite pour la discipline. Sakakibara, 21 ans, menait la course de sa demi-finale avec une place en finale pratiquement assurée avant d'être emportée brutalement dans une chute massive. Et toujours au JO de Tokyo, mais au football, les Matildas, l'équipe féminine australienne de football, auront une deuxième chance de remporter leur toute première médaille olympique après avoir décroché leur ticket pour les demi-finales de football féminin grâce à une victoire 4-3 en prolongation contre la Grande-Bretagne. Encore une fois, c'est Sam Kerr qui a sauvé les Australiennes lorsqu'elle a égalisé le score 2-2 dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire. Sam Kerr a encore brillé au pénalty, assurant la victoire des Matildas contre les Britanniques. Son pénalty a propulsé Sam Kerr dans les annales de l'histoire du foot féminin australien comme meilleure buteuse de l'histoire de Matildas. Plus tôt dans la journée, l'Australie avait décroché l'or à 2 reprises après que le marin Matt Wearne s'est placé dans une position imbattable au laser masculin. Matt Wearne a établi une avance inattaquable avec une seule course de plus à disputer. Il a enregistré 22 points d'avance après 10 courses. Wearne remportera l'or après la course aux médailles de dimanche. Il lui suffit tout simplement de terminer ou éviter la disqualification. Il s'agira de la 3e médaille d'or consécutive de l'Australie dans cette épreuve, après les victoires enregistrées par Tom Slingsby en 2012 et Tom Burton en 2016. La journée s'est toujours bien déroulée pour le sport australien après qu'Emma McKeon a remporté sa toute première médaille d'or individuelle aux Jeux Olympiques aux 100 mètres nage libre féminin. Le triomphe de McKeon en 51 secondes 96 centièmes et sa deuxième médaille d'or des JO après la victoire de l'équipe de relais 4 x 100 mètres libre plus tôt cette semaine. Emma McKeon a également remporté 2 médailles de bronze à ces Jeux Olympiques et est maintenant à une seule médaille d'égaler le record de Ian Thorpe et Shane Gould du plus grand nombre de médailles par un athlète australien dans une Olympiade. Emma McKeon a du même coup inscrit son nom dans les annales du sport car sa performance lui a aussi permis de briser le record olympique. Et une autre nageuse australienne, Kate Campbell, est arrivée 3e, donc avec une médaille de bronze. La veille, le monde sportif australien avait vécu une autre très belle journée avec la médaille d'or de Jessica Fox au kayak. Jess avait raté de peu l'or en kayak slalom féminin à 3 Jeux olympiques consécutifs. Chose faite, ce jeudi, l'athlète de 27 ans est allé décrocher la seule médaille qui échappait à sa collection de trophées dans les grands rendez-vous internationaux. Pour la petite histoire, selon les observateurs du kayak, Jess était une gagnante appropriée, ayant joué un rôle important dans la poussée pour que la discipline soit inscrite au programme olympique. Fox fait partie d'une sorte de royauté dans le monde du kayak. Ses parents étaient champions du monde de slalom. Son père, Richard, a remporté 10 titres mondiaux pour la Grande-Bretagne, tandis que sa mère, Myriam Fox Jarusalmi, a remporté 8 titres mondiaux et une médaille de bronze olympique pour la France. La victoire de Fox est donc en quelque sorte une victoire franco-australienne. On continue avec la performance des Australiens hier, mais cette fois-ci au tennis. Bien, Ash Barty et John Peers ont remporté leur match de double mixte au JO de Tokyo contre la Grèce. Le duo australien a battu Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari, augmentant les espoirs de médaille de l'Australie. La veille, la numéro 1 mondiale, Ash Barty, avait perdu en simple dame 6-4, 6-3, battue par l'Espagnole Sorribes Tormo, 48e joueuse mondiale. Et au basket, les Françaises ont battu hier les Nigérianes, 87-62, en phase de poule. Une des adversaires de taille, car les Nigérianes sont championnes d'Afrique. La veille, elles s'étaient illustrées en résistant avec brio au rouleau compresseur des Américaines, toujours en phase de poule. On se souvient que dans la même phase, les Françaises avaient perdu contre le Japon 72-68. Écoutons Valérie Gagné, sélectionneuse de l'équipe de France, au micro de Christophe Dirambien, peu avant la rencontre contre le Nigeria.
Il y a eu une vraie remise en question individuelle et collective pour être prête à aller au combat contre le Nigeria, parce qu'on parle effectivement de combat, puisque c'est un match qui sera déterminant pour les deux équipes. Et quand on parle de combat, c'est parce que le Nigeria développe un jeu très athlétique et très physique, où leur force réside dans le jeu rapide et leur agressivité offensive. C'est un vrai défi physique qui nous attend. On les a vus défier les États-Unis, et c'est pas rien. Et elles ont une présence incroyable au niveau du rebond, parce que je crois qu'elles sont à 16 ou 17 rebonds offensifs contre les États-Unis. Donc jouer le Nigeria, c'est d'abord répondre aux défis physique qu'elles vont nous proposer, quoi. Voilà, être dans le combat.
C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi, suite du programme après la pause. C'était Cézanne Pain par France Gall. Et je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SPS. Pour vous, dans le programme aujourd'hui, nous allons découvrir Jessica Fox, cette championne olympique franco-australienne qui a remporté la médaille d'or en kayak il y a à peine 2 jours. Mais avant cela, une courte pause. Et après la pause, nous reviendrons sur l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914. C'est notre rétro de ce samedi 31 juillet.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Notre rétro sonore à présent, comme chaque samedi, nous sommes le 31 juillet. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès, député, humaniste, homme de gauche, farouchement opposé à la guerre, était assassiné en plein Paris. Quelques jours plus tard, l'Europe basculait dans la guerre, le début de la Première Guerre mondiale. L'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914, c'est notre rétro sonore du jour, avec des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
À l'aube d'un conflit qui n'était que la phase initiale d'une guerre de 30 ans, Jean Jaurès mourait, assassiné dans ce petit café du quartier des journaux, où son article terminé, il était venu dîner.
Jean Jaurès est une cible politique à abattre.
Jaurès trahissait la France en disant « je ne veux pas la guerre avec l'Allemagne ».
Sa mort précipite la France dans l'une des pages les plus sombres de son histoire, la Première Guerre mondiale.
Est-ce que l'assassin a été le bras armé de quelqu'un ?
Est-ce que ce n'est pas un esprit faible manipulé ?
Quelques jours auparavant, on avait vu Jaurès à Berlin, où la social-démocratie allemande l'avait assuré de son accord contre la guerre menaçante. Image oubliée d'un monde que le lendemain, la guerre devait engloutir. Dans le brouillard sanglant qui commençait à s'étendre sur l'Europe, le monde ouvrier salua par des manifestations de masse la disparition de celui qu'Anatole France, Paul Boncour, Louis Barthout, au nom du gouvernement, saluait encore au seuil de sa tombe. C'est que Jaurès, pendant les 55 ans d'une vie trop courte, consacrée à l'action par la parole, par le livre et par le journal, pour l'aménagement d'un temps meilleur et d'un monde plus juste, était devenu le visage même de la cause des uns.
Seul le combat pour briser le capital sauvera la République. Mais seule l'appropriation collective des moyens de production mettra fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. Sans la République, le socialisme est impuissant. Mais sans le socialisme, la République est vide.
Tout de suite, nous sortîmes du café et nous vîmes l'assassin qui, son revolver à la main, ne fuyait pas. C'était Raoul Villain.
Mais qui est ce Raoul Villain ? Pour battre l'Allemagne et prendre sa revanche, il lui faut tuer Jaurès, le pacifiste, le dirigeant de l'Internationale socialiste, qui, quelques jours auparavant, tentait encore de sauver la paix à Berlin, avec ses amis, les sociaux-démocrates allemands. Jaurès, c'est bien le diable pour cet homme nourri des idées les plus radicales.
Il n'a pas été aidé par quelque puissance, Raoul Villain. Il a été aidé par la haine que diffusait
une grande partie de la France conservatrice, militaire, religieuse, nationaliste, et qui voulait à tout prix un esprit de revanche, retrouver l'Alsace-Lorraine et donc livrer la guerre à l'Allemagne.
Jaurès assassiné, plus rien ne s'oppose à la guerre. S'il avait vécu, se serait-il rallié à l'élan patriotique général ? Nul ne le sait. Mais l'immense majorité de ses amis politiques sont entrés en guerre, et lors de ses obsèques, élus de droite et de gauche, sont au coude à coude. Comble de l'affaire, Vilain sera même acquitté après la guerre, en 1919.
Il sera acquitté parce que ses avocats réussiront à faire croire qu'il a commis un crime passionnel, comme un mari qui aurait tué l'amant de sa femme. Exactement de la même façon. On en voulait à sa femme, la France, l'amant, Jaurès. Il l'a tué. Crime excusable dans le code criminel de l'époque. Il a été excusé jusqu'à être acquitté.
Qui était Jean Jaurès ? Cet homme politique a droit à de tels honneurs parce qu'il s'est battu toute sa vie pour plus d'égalité et de justice entre les citoyens. Jean Jaurès est né en 1859 dans le Tarn, dans le sud de la France. Ce très bon élève poursuit ses études à Paris, une marque de réussite à l'époque. Ses idées pour les droits de l'homme le poussent à être professeur de philosophie. Mais très vite, il a envie d'agir. Il veut faire de la politique. À 26 ans, en 1885, il devient député du département du Tarn à l'Assemblée nationale. Il combat les inégalités entre riches et pauvres, veut bâtir une société plus juste et rendre l'éducation accessible à tous. On dit que c'est un homme de gauche. Il va à la rencontre des mineurs, des ouvriers, des paysans et raconte leurs difficultés dans des articles de presse. Il a créé en 1904 un journal qui existe toujours, le quotidien L'Humanité. Il est connu pour être un grand orateur. Ses discours pour la cause des plus faibles sont mémorables. À la veille de la Première Guerre mondiale, ses idées en faveur de la paix dérangent. On l'accuse même d'être au service de l'ennemi. Le 31 juillet 1914, il est assassiné à Paris. Cet acte a bouleversé la population et les hommes politiques de tous les partis. Après la guerre, son corps a été transporté au Panthéon parmi les personnages qui ont marqué l'histoire de France.
Et ce furent les mineurs de Carmaux qui, au jour de son transfert au Panthéon, voulurent porter l'énorme catafalque. Le temps a passé, le café du croissant a changé d'aspect. Une plaque sur le mur, une date sur le sol, rappelle le nom qui résonne toujours aux oreilles du peuple. Un homme est mort. Et miracle étrange, personne ne l'a oublié.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Allez tout le monde qu'à manger.
C'était Mandoline par Taxi Créole. Et voilà, chose due. Bien, à présent, nous allons parler de Jessica Fox, cette championne de kayak. Et comme vous l'avez entendu dans le magazine des sports, Jess avait raté de très peu l'or en kayak slalom féminin à trois Jeux olympiques consécutives. Maintenant, c'est chose faite. Avant-hier, elle a pu décrocher la seule médaille qui échappait à sa collection des trophées dans les grands rendez-vous internationaux. Et il faut signaler que Fox fait partie d'une sorte de royauté dans le monde du kayak. Elle est née à Marseille et elle a été licenciée dès son troisième mois au club marseillais de Mazargues Canoë Kayak, le MMCK. Et elle vit depuis 1998 à Sydney et s'entraîne sur le bassin artificiel des Jeux Olympiques de l'an 2000. On découvre son itinéraire dans un entretien avec Mathilde Blottière.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Je suis née le 11 juin 1994 à Marseille. Ma mère est française, donc elle est marseillaise aussi, mais mon père, il est anglais. Les deux se sont rencontrés dans le monde du kayak, ils étaient athlètes de haut niveau. Ils ont déménagé en France en 90, je pense. Ma mère préparait les Jeux Olympiques de Barcelone. Mon père, c'est lui qui l'entraînait un peu. Et du coup, après ma naissance, elle a repris le bateau pour les Jeux d'Atlanta. Et on est venu en Australie en 99 pour les Jeux de Sydney.
Et vous êtes finalement restée en famille en Australie.
Voilà, donc au début c'était que pour 2 ans. Mon père a trouvé un poste, il entraînait l'équipe australienne de canoë-kayak. Finalement les contrats ont été renouvelés et puis ma mère a trouvé un boulot aussi et on est restés.
Donc ça fait 20 ans. Vous avez grandi en Australie et j'imagine qu'avec des parents kayakiste, on tombe dans le bateau toute petite.
Oui, certains disent que je suis née dans un kayak parce que mon grand-père, lui, est le président du club de Marseille Mazargues Canoë Kayak. J'étais au club tout le temps, on sentait la résine et les réparations des bateaux. On était sur, nous, on jouait dans les rafts, sur les pontons, jeter des cailloux dans l'eau. Donc c'était le début, mais pour moi, je voulais pas trop faire de kayak. C'était le sport de mes parents. C'était toujours ce qu'on faisait quand on partait en vacances. Il y avait toujours les kayaks. C'était un peu lourd, quoi. J'ai pu naviguer sur le bassin de Penrith, ici, qui a été construit pour les Jeux de Sydney, à partir de 11 ans.
D'accord.
Et c'est là où j'ai pris le plaisir de l'eau vive. Ça faisait peur, mais j'adorais l'adrénaline aussi qui vient avec.
Alors, une question de néophyte, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre kayak et canoë ?
Dans le canoë-kayak slalom, on descend un parcours d'environ 300 mètres d'eau vive et on prend des portes, les vertes, on les descend et les portes rouges, on les remonte. On remonte le contre-courant. Et c'est une course contre la montre avec des pénalités. Et il y a plusieurs épreuves. Donc il y a le kayak et le canoë. Le kayak, on est assis dans un bateau avec une pagaie double. Et le canoë, la forme du bateau est un peu différente. La plus grosse différence, c'est qu'on est à genoux avec une pagaie simple. Mais on fait le même parcours. Donc en fait, jusqu'à présent, le kayak pour les femmes, c'était la seule épreuve qui était aux Jeux Olympiques. Donc c'était surtout cette épreuve, cette discipline dans laquelle je me concentrais le plus. Mais je faisais aussi beaucoup de canoë depuis 2010 et j'ai été championne du monde junior, moins de 23 et senior aussi en canoë.
C'est quoi votre rapport à la France ? Parce que quand on grandit comme ça en Australie, vous courez sous les couleurs de l'Australie, mais vous l'avez rappelé, votre grand-père dirige le club à Marseille et vous gardez des liens, j'imagine, assez forts.
Je suis licenciée au club de Marseille. D'ailleurs, il me dit toujours, le jour de ta naissance, je t'ai pris une licence au club de Marseille. Donc, depuis ma naissance, je suis licenciée à Marseille et je me sens française, mais je me sens aussi australienne et je cours pour l'Australie parce que j'ai grandi ici, j'ai appris à faire du kayak ici. J'ai eu beaucoup d'opportunités en Australie que j'aurais peut-être pas pu avoir en France. Surtout à un âge, à 10-12 ans, je pouvais naviguer ici avec les meilleurs Australiens. Et en France, le système est un peu plus différent. Il y a beaucoup plus de densité. Il y a plein de bassins, ce qui est génial pour les jeunes Français qui apprennent. Mais par rapport aux compétitions, c'était pas pareil. Comme on n'a pas de famille ici, et que mes parents, ils entraînaient l'équipe australienne, on voyageait beaucoup en Europe pour les compétitions et on les accompagnait. Donc quand eux, ils partaient en République tchèque ou en Espagne, nous, on restait chez mes grands-parents à Marseille et on passait 3 mois de l'année là-bas, l'été.
Quelles sont les différences de notoriété du sport en France et en Australie ? Parce qu'en France, c'est quand même un sport très ancré dans la culture maintenant. Il y a des grands champions français que le public identifie tout de suite. Enfin, je pense à Tony Estanguet. En Australie, c'est un sport qui est populaire également, qui est connu du grand public ?
Non, c'est beaucoup plus petit. D'ailleurs, je dirais que avant les Jeux de 2012, beaucoup de monde ne connaissait pas trop le sport. Souvent, ils disaient « Ah, tu fais de l'aviron, you do rowing ». C'est vrai que c'est pas du tout pareil qu'en France. Tony Estanguet, il a eu des exploits exceptionnels, 3 fois champion olympique. Donc, c'est vrai que ça a fait grandir le sport. Il y a beaucoup de licenciés français, il y a beaucoup de clubs de kayak. Et en Australie, il y en a beaucoup moins parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où faire du kayak. Il y a beaucoup plus de courses en ligne qui utilisent les mêmes lacs que l'aviron.
Vous êtes très jeune et pourtant vous êtes déjà une grande championne. Vous avez plusieurs titres mondiaux à votre actif. Est-ce que c'est dur de se motiver quand on a déjà gagné beaucoup ? Et quelle est votre ambition pour les saisons à venir ?
Je suis très ambitieuse. Dans le kayak, oui, j'ai eu la chance de voyager, de faire des compétitions jeunes. Les championnats du monde junior à Foix en 2010, c'était mes premières courses internationales. J'ai gagné ces championnats du monde junior et en fait, ça m'a donné l'envie de vraiment m'y mettre à fond, de viser les Jeux Olympiques. Et j'ai été 3 fois championne du monde d'ancien, 2 fois en kayak. C'est vrai qu'à 23 ans, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je vise plus de titres, je vise les limites du sport, de rattraper les mecs. C'est aussi, pour nous, c'est les Jeux Olympiques, le plus gros objectif. C'était incroyable de suivre ça avec Tony, qui est un peu à la tête de cette campagne pour Paris. Donc quand on a su que ça allait être Paris, moi je vais avoir 30 ans à Paris, donc je savais pas trop si après Tokyo je continuerais, mais maintenant que c'est Paris, ça me donne vraiment envie. J'ai beaucoup de famille en France, j'ai plein d'amis en France, et je pense que ça va être un spectacle magnifique, et de pouvoir courir les Jeux Olympiques à Paris, ça serait vraiment un rêve.
Si je vous demande un souvenir sur l'eau, est particulièrement marqué, que...
C'est dur comme question, parce qu'il y a les moments de compétition. Évidemment, les Jeux Olympiques, monter sur le podium, c'était incroyable de faire ça à Londres, et puis après à Rio de gagner une autre médaille olympique. Mais pour moi, c'est aussi les championnats du monde. Et là, cette année à Pau, c'était tellement spécial parce que j'ai couru devant un public énorme. On n'a jamais eu un public comme ça aux championnats du monde. Les Palois, ils étaient présents, même sous la pluie, c'était génial. Et j'ai eu la défaite la veille en C1, j'ai terminé 6e et pour moi c'était une grosse déception. J'étais vraiment triste et revenir le lendemain et gagner ces championnats du monde, ça m'a vraiment marqué et c'était un super moment. Quand j'y pense, tous mes moments préférés sur des bassins sont en France. Il y a le bassin de Foix en 2010 où j'ai fait mes premiers championnats du monde junior et c'était mes premières courses internationales et c'était juste une super ambiance. Les Français, ils savent vraiment faire des super courses. Et après, c'était à Bourg-Saint-Maurice, dans les Alpes, sur l'Isère. C'est un super bassin, le plus gros, le plus dur, je pense, de slalom, qu'on n'utilise plus trop parce que maintenant, on va plutôt sur des bassins artificiels. Mais c'est une rivière naturelle et c'est la plus belle rivière, je trouve, du monde.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé 210 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement. Et le Queensland décrète un confinement strict de 3 jours après la détection de 6 nouveaux cas de coronavirus et décès hier de Jacob Desvarieux du groupe Kassav à l'âge de 66 ans. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, le chanteur, musicien, arrangeur et producteur Jacob Desvarieux est personnalité marquante de la vie musicale antillaise et africaine et cofondateur du groupe Kassav. Eh bien, il s'est éteint hier. Jacob Desvarieux a révolutionné la musique avec le zouk qu'il a rendu très populaire à travers le monde. Il a joué sur les 5 continents. En 1989, il faut le signaler, le groupe a obtenu le prix de la francophonie à Québec. Et il a aussi été le premier groupe noir à se produire en Russie. Nous reviendrons plus tard sur la vie de Jacob Desvarieux dans nos programmes ultérieurs. Mais avant de clôturer, je vous remercie de votre compagnie ce samedi. Prochaine édition du programme en français, c'est dimanche, demain, entre 13 et 14 heures, et vous serez en compagnie de Jean-Noël Ducasse. À présent, pour rendre hommage à Jacob Desvarieux, je vous laisse en compagnie de son morceau « Laissez parler les gens ».
Ratatatatatatata, yeah man, special combination, Jocelyn Chela, original tone, yeah man, respect all time, laissons parler les gens.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.